Alors, l'évangile de Jean, chapitre 1, et ce matin, on va lire des versets 43 jusqu'à 51. Jean 1, versets 43 à 51. Le lendemain, Jésus voulut se rendre en Galilée. Et il rencontra Philippe et lui dit, « Suis-moi. » Philippe était de Bethsaïda, de la ville d'André et de Pierre. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, « Nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, le fils de Joseph. » Nathanaël lui dit, « Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? » Philippe lui répondit, « Viens et vois. » Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui, « Voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. »« D'où me connais-tu? » lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit, « Avant que Philippe t'appela, quand tu étais sous le figuier, « Je t'ai vu. » Nathanaël répondit et lui dit, « Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. » Jésus lui répondit, « Parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois, tu verras de plus grandes choses que celle-ci. » Et il lui dit, « en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert, et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. » Dieu bénisse sa parole. J'aimerais débuter ce matin juste avec un petit rappel de la semaine dernière, où on a vu l'appel du Seigneur Jésus. Jésus qui appelle André, Pierre, et... on a appelé ça un appel irrésistible. C'est-à-dire que lorsque Jésus appelle quelqu'un à une repentance, c'est un appel irrésistible. Oui, il y a des gens qui ne répondront pas à l'appel. Ça, c'est clair. Mais pour celui et celle qui a été choisi avant la fondation du monde, eh bien, son appel est un appel irrésistible. Maintenant, ces deux disciples ne voulaient pas seulement voir le Seigneur Jésus, mais ils voulaient aussi le connaître, c'est-à-dire être en communion avec lui. Et ça doit être la même chose pour nous en 2018. Si on est appelé à être un enfant de Dieu, il ne suffit pas justement de voir ou de connaître des choses sur le Seigneur, mais après notre conversion, il faut apprendre à mieux connaître le Seigneur, c'est-à-dire à avoir une communion fraternelle, avoir le connaître personnellement et avoir cette relation avec lui. Beaucoup de gens, vous savez, nous parlent de Jésus, nous disent qu'ils connaissent des choses sur Jésus, mais peu de gens, peut-on dire, qu'ils le connaissent comme étant leur sauveur personnel. Et malheureusement, ils n'ont aucune communion avec le Seigneur. C'est-à-dire que si on se met à en parler, oui, ils vont répondre, mais après cela, la semaine se déroule et il n'y a aucunement question du Seigneur. On pourrait dire qu'ils n'ont pas de relation personnelle. Vous savez, on peut connaître bien les gens. Hein? On va juste apprendre le dictionnaire, puis on peut voir qu'on connaît bien les gens. Mais est-ce qu'il y a beaucoup de gens qu'on peut dire « j'ai une relation personnelle avec cette personne-là? » C'est plutôt rare. En plus, nous avons appris que d'annoncer cette bonne nouvelle-là, la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ, ça ne prend pas des diplômes, ça ne prend pas un talent de bon parleur, mais seulement par de simples paroles qui sont centrés sur Christ seulement. Et ça, tout le monde, toute personne sauvée, peut facilement parler de Jésus en restant centré sur lui, en ayant des paroles saintes comme « Viens voir ». Donc, avant d'aller plus loin, on va prier notre grand Dieu et on va demander à l'Esprit-Saint qui est en nous de nous éclairer. Et laissons-nous être enseignés ce matin parce que Dieu veut qu'on le soit et qu'il nous rende obéissants à sa parole. Père Céleste, devant le texte que nous venons de lire ce matin, devant ta parole qui est une parole vivante, puisses-tu, Seigneur, ouvrir nos cœurs. Encore une fois, deux de tes premiers disciples, Seigneur Jésus, vont répondre à ton appel. Que veux-tu nous enseigner ce matin? Parle à nos cœurs. Que je sois seulement que l'instrument dans lequel, Seigneur, duquel tu vas te servir pour qu'on soit tous ensemble enseignés. Que ton esprit puisse nous éclairer. Par le précieux nom de Jésus, on prie. Amen. Le premier verset qu'on va voir ce matin nous parle de l'appel de Philippe. Hein? Au verset 43, on peut lire « Le lendemain, Jésus voulut se rendre en Galilée et il rencontre Philippe et lui dit « Suis-moi ». On est au début de la quatrième journée, depuis le début du chapitre 1. Et là, le commentateur Bosch nous fait remarquer que le premier jour, on voit, c'est-à-dire l'accent est mis sur Jean-Baptiste seulement. Et ça, c'est les versets 15 à 28. Ensuite, la deuxième journée, l'accent est mis sur deux personnages, Jean-Baptiste et le Seigneur Jésus. Troisième journée, là, Jésus devient prédominant, mais on parle aussi de Jean-Baptiste. Et enfin, la quatrième journée, Jésus devient la personne prédominante, c'est-à-dire les versets 43 à 51, ceux qu'on a lus tantôt. Donc, le Seigneur pénètre dans la région du Nord, connue sous le nom de la Galilée. Et là, il rencontre Philippe. Et il l'invite tout simplement à devenir son disciple. Il lui dit, « Suis-moi! » Et juste ces deux petits mots-là, ce sont des paroles qui sont tellement importantes à cause, premièrement, de l'identité de celui qui les prononce. Et deuxièmement, à cause des privilèges qu'elles vont entraîner, c'est-à-dire les privilèges de suivre Jésus. Jésus, c'est celui qui prononce ces paroles-là. C'est lui qui dit à Philippe, « Suis-moi ». Et ensuite, suivre le Seigneur Jésus, bien, apporte de grands privilèges. Et on va voir ça au fur et à mesure qu'on va avancer dans l'Évangile de Jean. Encore aujourd'hui, le Seigneur adresse cette invitation-là à la foi qui est simple, qui est sublime, partout et pour tous. Suis-moi. Suis-moi. Pas moi, là, Seigneur Jésus. Et là, au verset 44, Philippe, on apprend qu'il vient de Bethsaïda, la même ville que André et Pierre. Et Bethsaïda, c'était une ville qui était située sur les rives de la mer de Galilée. Il y a peu de villes au monde qui ont reçu tant d'honneur. Le Seigneur a accompli plusieurs de ses plus grands miracles-là. Et dans le passage de Luc 10, verset 13, juste comme exemple ici, on voit que Jésus dénonce, c'est-à-dire l'indifférence des gens de cette ville. Malgré le fait que Jésus a fait de grands miracles, les gens sont demeurés indifférents. Alors Luc 10, verset 13, nous dit ceci, « Malheur à toi, Chorazin, malheur à toi, Bethsaïda, car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyr et dans Sidon, il y a longtemps qu'elles se seraient repenties en prenant le sac et la cendre. » Donc, Philippe et André et Pierre habitaient Bethsaïda. Néanmoins, cette ville, comme on peut voir dans le passage de Luc, restait indifférente au sauveur. Elle l'a même rejetée, on pourrait dire. Et par la suite, elle fut détruite de façon si complète qu'aujourd'hui, il est impossible de la localiser. Alors, les paroles du Seigneur se sont révélées là. Verset 45, Philippe rencontra Nathanaël. Et il lui dit, « Nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. » Philippe, aussitôt que le Seigneur l'a appelé, aussitôt que le Seigneur lui a dit, « Suis-moi », veut partager sa joie, hein, sa joie avec quelqu'un. Et ça me rappelle un peu hein, nos premiers jours, hein, les premiers jours qu'on a compris l'Évangile, qu'on a reçu le Seigneur Jésus dans nos vies, combien on était tellement joyeux que la première personne qui passait, on voulait parler de Jésus. Et là, il va à la rencontre de Nathanaël. Les nouveaux convertis sont les meilleurs gagneurs d'âme pour le Seigneur. Malheureusement, parfois on fait des choses maladroites. On dit des choses qu'on ne devrait pas dire, parce qu'on n'a pas l'expérience. Mais si on garderait le cœur des premiers jours de notre conversion, eh bien, il se gagnerait beaucoup d'âme à Christ. Donc, son message était très simple et même percutant. Il dit à Nathanaël qu'il avait trouvé le Messie annoncé par Moïse et les prophètes, Jésus de Nazareth. Donc, on voit que Philippe avait quand même une certaine connaissance de l'Ancien Testament. Et là, il présente Jésus comme étant le fils de Joseph. Mais c'est une petite erreur, ça. Non pas que la Bible est une erreur, parce que Philippe a vraiment dit ça, mais Jésus était plutôt né de la Vierge Marie et n'avait aucun père humain. Joseph a été adopté, c'est-à-dire a adopté Jésus, et il devint le père légal, mais non pas le père biologique. Et James Stewart, qui est un autre commentateur, va dire ceci, Christ n'a jamais, je veux juste éclaircir avant ce que Stewart dit, c'est que il parle des nouveaux convertis. Christ n'a jamais exigé une foi complète et entière dès le début de la conversion des disciples. Et c'est vrai ça. Au début, on est joyeux d'avoir compris l'amour de Dieu en nous sauvant, le sacrifice de Christ à la croix, mais on n'a pas une connaissance de la Bible en entier. Ensuite, il poursuit en disant, il n'a jamais empêché personne à devenir son disciple en raison d'une compréhension incomplète. Non, tu viens tel que tu es. Il ne te demande pas d'étudier, de faire toutes tes études, de faire ton bac avant de devenir à lui. Devenir à lui, c'est-à-dire. Et là, il dit, de toute évidence, il en est de même aujourd'hui. Il se place au même niveau que nous, ses frères. Il nous ordonne de s'attacher à lui comme on le peut. Il nous accepte avec la foi qui est la nôtre, quelle qu'elle soit. Il s'en contente comme un début. Et à partir de là, il nous conduit comme les premiers disciples, pas à pas, jusqu'à nous faire découvrir le secret de son identité et la plénitude glorieuse d'une vie disciple. Et c'est exactement ce qui se passe dans la vie d'une personne nouveau-née. Graduellement, on apprend à mieux connaître notre Sauveur, notre grand Dieu, à connaître ce que l'Esprit fait en nous, hein, et on apprend à connaître le Seigneur, à avoir cette relation personnelle-là qui est tant désirée par l'enfant de Dieu. Au verset 46, Nathanaël lui dit, « Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? » Et Philippe lui répondit, « Viens et vois. » Viens voir. Il faut dire que Nathanaël était perplexe. « Ça se peut-tu quelque chose de bon qui vienne de là? » Hein? Nazareth, c'est une ville méprisée, la ville méprisée de la Galilée. Aussi, pour Nathanaël, c'est impossible que le Messie, celui tant annoncé, vive dans un endroit si peu reluisant, autrement dit. Et c'est pourquoi il pose la question, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? J'aurais pu dire ça quelques années passées de Montréal. J'appelais Montréal la Grande Babylone. Et pour moi, il n'y avait rien de bon qui sortait de Montréal. J'étais obligé de changer d'idée quand mes enfants ont commencé à habiter. Donc, Philippe, de son côté, il ne parle pas. Et des fois, c'est bon de rien dire, de ne pas essayer d'argumenter ou de dire ou d'ajouter quoi que ce soit. À ses yeux, la meilleure façon de répondre aux objections de Nathanaël consiste à les introduire directement dans la présence du Seigneur Jésus. Et souvent, on fait cette erreur-là. On cherche à argumenter. Argumenter les choses hein, que quelqu'un dit lorsqu'on est en train d'évangéliser quelqu'un. Puis là, ben, on perd notre temps à dire des choses, puis tout d'un coup, on réalise que la simple chose qu'on aurait dû faire, c'est être bien, de présenter le Seigneur Jésus. C'est une leçon précieuse pour nous tous, au moins pour tous ceux qui cherchent à gagner des âmes pour le Seigneur. Et la chose qu'on pourrait s'encourager, c'est ne nous laissons pas entraîner dans des discussions sans fin. Hein? Mais contentons-nous de lancer l'invitation. Comme Philippe a dit à Nathanaël, viens et vois. Tu parles de l'Évangile à un inconverti, viens, je vais te montrer. Viens voir dans la parole de Dieu ce que le Seigneur veut dire. Aujourd'hui, le Seigneur est rendu au ciel, l'Esprit Saint dans notre cœur. Donc, le seul moyen qu'on peut dire à la personne de voir, c'est dans les Écritures. Au verset 47, Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, il dit de lui, « Voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. » Et ce verset-là, le verset 47, nous montre que Jésus connaît toutes choses. Et on appelle ça l'omniscience. Jésus est omniscient. Il connaît tout. C'est un de ses attributs. Et sans avoir jamais rencontré Nathanaël, Jésus affirme qu'il était vraiment un Israélite dans lequel il n'y avait point de tricherie ni de fraude. Vous savez, dans l'Ancien Testament, il y a un personnage qu'on appelle Jacob. Et Jacob avait cette réputation-là d'utiliser des méthodes frauduleuses en affaires. Mais Nathanaël, lui, au contraire, était un Israélite dans lequel il n'y avait point de Jacob. Il n'y avait point de fraude. Un homme droit. Un homme intègre. Et Jésus l'avait, le savait ça. Et au verset 48, Nathanaël dit, « D'où me connais-tu? » Jésus lui répondit, « Avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. » Là, je voudrais qu'on se place dans le contexte, là, puis qu'on se dise, qu'on s'imagine, c'est-à-dire, la surprise qu'on aurait si quelqu'un nous dirait cela. Donc, imaginons-nous la surprise de Nathanaël. Un parfait étranger lui parle comme s'il l'avait toujours connu. Et là, assis sous le figuier, personne ne pouvait voir Nathanaël, parce que dans ce temps-là d'année, les branches de l'arbre, le feuillage, le cachaient entièrement. Mais malgré tout cela, Jésus l'a vu. Et là, Nathanaël répond au verset 49, il lui dit « Rabbi ». Hein, on sait la semaine passée, qu'est-ce que ça veut dire? « Maître ». Tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Maintenant, la question qu'on se pose, c'est est-ce le fait que le Seigneur Jésus a été en mesure de le voir alors qu'il était hors de vue, qui a convaincu Nathanaël? Peut-être Nathanaël a reçu ce qu'on appelle une révélation surnaturelle. En tout cas, peut-être qu'il y a un mélange des deux, c'est-à-dire que Nathanaël est resté surpris, puis le fait qu'il l'ait vu sans qu'il soit visible, ça l'a certainement impressionné. Mais aussi, je crois que l'Esprit-Saint faisait son travail dans son cœur. De toute façon, il savait maintenant que Jésus était le Fils de Dieu, le roi d'Israël. Verset 50, Jésus lui répond, « Parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois? Oh, tu verras de plus grandes choses que celles-ci. » Le Seigneur ici venait de donner à Nathanaël deux preuves qu'il était bien le Messie. Il venait de décrire la personnalité de Nathanaël à une personne où il n'y avait aucune fraude, et il venait de le voir alors qu'il était hors de vue. Quelque chose qui ne marche pas avec mon micro. Sous le figuier. On va continuer comme ça. Ces deux preuves-là, je crois qu'elles étaient suffisantes pour convaincre Nathanaël. Et c'est alors que Nathanaël a cru. Alors le Seigneur Jésus, qu'est-ce qu'il fait à ce moment-là? C'est qu'il lui promet que lui, Nathanaël, verra de plus grandes choses que celles-ci. Et je termine avec le verset 51. Il lui dit, « en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. » Vous savez, chaque fois que Jésus introduit une déclaration en disant ceci, en vérité, littéralement, ça veut dire « Amen, Amen », dans ce temps-là, Jésus prononce toujours des paroles qui sont très importantes, des paroles à retenir. Et ici, il donne à Nathanaël un aperçu de l'époque future où, lorsque le Seigneur reviendrait pour régner sur la terre entière, eh bien, le monde va
savoir que le fils du charpentier, Jésus de Nazareth, qui vivait dans la ville méprisée de Nazareth, bien, ce Jésus-là était véritablement le Fils de Dieu et le roi d'Israël. Et c'est la confession de foi de Nathanaël. Il dit, « Tu es le Fils de Dieu, le roi d'Israël. » Et dans cette époque-là, le ciel va être ouvert. La faveur de Dieu va reposer sur le roi lorsqu'il va régner sur le monde à partir de Jérusalem, sa capitale. Et selon toute vraisemblance, Nathanaël était en train de méditer l'histoire de l'échelle de Jacob. Dans l'Ancien Testament, c'est dans Genèse 28. Et je vais vous lire le verset 12. Il eut un songe, et voici, une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait au ciel. Et voici, les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Cette échelle-là, où les anges montaient et descendaient, bien, c'est le symbole du Seigneur Jésus lui-même, le seul chemin pour aller au ciel. Les anges de Dieu monteront, descendront au-dessus du Fils de l'homme. Vous savez, les anges sont les serviteurs de Dieu. Et ces serviteurs-là, ils se déplacent comme des flammes de feu pour le servir. Et quand Jésus va régner comme roi, ces anges-là vont se déplacer sans cesse entre le ciel et la terre afin d'accomplir la volonté de Dieu. Et par le fait même, Jésus, ce qu'il indiquait à Nathanaël, c'est qu'il venait de voir juste une petite preuve du fait qu'il était le Messie. Il dit, tu viens de voir des petites choses, tu n'as pas fini d'en voir des plus grandes. Et lorsque le Seigneur Jésus va régner dans son règne futur, bien, Nathanaël allait voir le Seigneur pleinement révélé comme le Fils, le loin de Dieu. Et c'est à ce moment-là que toute l'humanité saura que quelqu'un de bien est réellement sorti de Nazareth. Et je vais conclure ici en disant, Jésus a rencontré Philippe. Philippe a rencontré Nathanaël et l'appel continue depuis. Depuis ce temps-là que des gens sont continuellement appelés à suivre le Seigneur Jésus, à venir et voir ce qu'il est. Avant de monter vers le Père, Jésus a donné ses instructions. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Je parlais avec Charles-Henri Côté, qui est un pasteur, et il s'en vient s'établir comme missionnaire ici, dans le coin de la Chute, à Saint-André-Ablain. Il me disait, dans le passage du verset 20, Matthieu 28, 20, « Observez tout ce que le Seigneur a prescrit et contenu dans cet évangile-là. » Alors, si on veut savoir vraiment ce que le Seigneur Jésus a voulu dire par ce mot, enseignez-leur, par cette phrase, c'est-à-dire enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, lisons Matthieu. Et le fait de continuer jour après jour à faire des disciples, à les baptiser et à leur enseigner à observer tout ce que le Seigneur Jésus a prescrit, Et cela jusqu'à l'enlèvement de l'Église, c'est ce que j'appelle l'équilibre du salut dans l'Église du Seigneur Jésus. Voilà ce qui devait arriver. Voilà ce qui était le plan du Seigneur jusqu'à ce qu'il revienne chercher son Église. Absolument rien de compliqué. Il suffit juste de parler. C'est le même message depuis près de 2000 ans. Et là, je me dis, qu'en est-il pour nous? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on dit? C'est quoi le message que nous avons à apporter à ce monde perdu dans notre région, peu importe où on est? Et ce que le Seigneur Jésus veut pour que cet équilibre-là se maintienne, c'est qu'on puisse continuer à lui obéir en annonçant la bonne nouvelle et à le laisser ou à laisser l'Esprit Saint agir. On n'a pas la responsabilité du salut de un et de l'autre. On a seulement la responsabilité de parler, de le dire, d'annoncer cette bonne nouvelle, d'être comme Philippe qui a tout de suite couru vers Nathanaël et qui lui a dit « Viens et vois ». Prions Dieu. Père Céleste, que l'enseignement de ta parole ce matin puisse nous encourager à faire des disciples. Que l'Église que tu as établie il y a plusieurs années, ici même à Hawkesbury, puisse être une Église vivante qui n'a pas honte de toi et qui a comme mission, malgré l'âge qu'on a, malgré les maladies qu'on a, de parler de toi. Et ensuite, de laisser l'Esprit Saint agir, de prier pour ces âmes-là qui sont perdues. Souvent, ce sont nos enfants, nos parents, des gens de notre famille, des amis. Qu'on puisse les aimer autant, Seigneur, comme toi, tu nous as aimés. Qu'on puisse saisir, Seigneur, l'occasion qui se présente à nous, parce que le temps est court et tu vas revenir bientôt. Et après cela, soit qu'il soit trop tard ou que ce soit vraiment des temps difficiles pour des personnes qui vont vouloir se convertir. Seigneur, que l'Esprit en nous puisse agir, qu'on puisse le laisser nous diriger, qu'on puisse être une Église vivante, une Église qui veut amener des âmes à toi, Seigneur. Et c'est par Jésus qu'on te prie. Amen.
Je demanderai à Michel s'il veut bien s'avancer pour les offrandes, s'il vous plaît.